Alors, ayant entendu ces deux présentations qui touchaient la question du climat climatique, la question du réchauffement climatique, je vous invite à ressortir vos clickers. Et ce que je vais faire, c'est quelque chose de très, très simple. Je vais passer à la bonne acétate. Oups, on est revenu au début. Ah, je pense qu'on l'a deux fois. On l'a tellement aimé qu'on va la regarder une deuxième fois. On va y aller. Voilà. Alors, cette question-là, vous allez la reconnaître, c'est exactement la même question que je vous ai posée avant les deux présentations. Alors, vis-à-vis du phénomène de réchauffement climatique, laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre opinion? En d'autres mots, est-ce que vous gardez votre position ou est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de la changer? Alors, je vais ouvrir le vote. On va y aller. Voilà. Et il manque toujours le doute, au numéro C. On a vraiment copié la même question. Ça va? Oui, il n'y a aucun doute qu'il a été causé par les... C'est un mot crucial. Ça va? Alors, ça n'a pas beaucoup changé. En fait, je pense que 87%, c'est un petit peu plus élevé que ça l'était avant. On a toujours le 2% que Christophe avait mentionné tantôt. C'était un peu un jeu pour dire que dans ces questions-là, on peut parfois avoir une opinion qui est influencée par ce qu'on entend récemment ou des positions particulières. Mais c'est des choses qui sont quand même très sérieuses et qu'il faut en parler. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la partie des questions du public. Alors, encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez poser une question, je vous invite à aller à un des micros. Et on va avoir aussi deux micros qui vont être sur le bord des allées pour ceux qui voudraient s'en servir. Questions are welcome in French as well as in English. And we are very happy to accommodate both languages as usual. Et j'invite maintenant le professeur François Bouffard de l'Université McGill pour venir modérer la période de questions.
Merci, Miguel. Donc, on est prêt à partir avec les questions. Monsieur, au micro, à ma droite.
Bonjour.
Dites votre nom, s'il vous plaît.
Paul Aubé, avec un accent aigu. Ma question s'adresse à Madame...
Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi, si les trois orateurs peuvent venir s'asseoir en avant. Ça va faciliter la communication si on peut se regarder.
Et s'il vous plaît, si vous posez une question, essayez de garder les questions courtes de manière à ce que tout le monde ait une chance de poser une question à nos trois orateurs. Merci.
Alors, la question s'adresse à Madame... je ne suis pas sûr de bien prononcer, là, Jordal...
Oui, c'est une question pour Mette Biondal.
Oui. Si vous permettez, je vais la faire en anglais pour éviter le travail de traduction. You were talking about the price, the setting price, and you said that it should be related to the marginal cost of the generation. But there's a little bit of a problem of that because the marginal cost is really the variable cost, and it does not provide sufficient fund for all the fixed costs that are related to generation, which is very intensive in capital cost. So I think it's probably... a good point when you have a system which is mature, because then everything is installed. But when you're talking, we are thinking of the developing countries, such a system will not be very helpful, maybe even detrimental to the development of the electricity system. So What is your opinion on that, and also on the fact that very often deregulation and all those nice things for developing countries are set as a goal for the developing countries, and but I'm not sure that it's the good way to go.
I think the question about fixed cost, and I think Dick will also agree on that, is not quite settled. You have the capacity markets that you see in the US and which is discussed in many of the European countries in order to recover the total cost. In the Nordic countries, we have an energy-only market, and we also see investments in new generation capacity. So it depends a little bit on how the marginal cost pricing, who will be the marginal producer. Because if that's gas or oil or whatever, like it used to be before at least, most of the generation capacity is profitable, at least in the Nordic experience. And you know, when it comes to the hydropower, the payable marginal cost is very low. But when you have the reservoirs, it's a dynamic optimization problem that you do as a generator. So you do not have a close to zero marginal cost. It's the alternative value of using your water, which is based on, the value of demand or the alternatives that you have from other fuels in the future. So typically you have a marginal cost also for the hydropower producers, which is very far from zero. So, but I think still it's a lot of discussions about whether you need the capacity markets or not. And I think Dick has said once that let's price everything as good as we can, and then we will see whether we need them. If you have a capacity market and it's not needed for, the prices will go to zero. And I think that's a wise approach.
I think you're right, in a sense. The biggest missing piece, of at least in the U.S., of in the ISO markets, is price-responsive demand. Right now, the model assumes that demand is willing to pay anything for electricity. We know that that's probably not true. But if you were to have price-responsive demand in the market, the marginal generator would not always set the price. The price in times of scarcity would be set by the demand curve and not the supply curve, which gives you the inframarginal rents in order to recover your capital costs.
That's also why it's important to leave out these price caps. You have to allow the prices to go really high in order for some of the generators to recover the fixed cost as well.
Thank you. Merci. Aussi, on va aller avec une question de Laurent Trottier aussi pour commencer, pour continuer. Monsieur, ce sera à vous après.
Okay, well, I guess I have a sort of a comment and question about carbon pricing. I think all of you kind of touched on it in a somewhat different way. I'd like to know whether you all agree that carbon pricing is the most efficient economic tool that can be used to, you know, drive down greenhouse gases. And I don't know if Dick would stick his neck out and make a forecast as to when that will happen.
But, I wouldn't dare to forecast when it would happen. But there's no doubt in my mind that the best and cheapest way to get the carbon reductions is with the carbon price, because otherwise you have to start picking the technological winners. And I would prefer that be left to the marketplace and let people risk their own venture capital by seeing high prices. I mean, the irony of the subsidies of wind and solar is that it's driving nuclear out of the market because it's driving the prices down. The benefit of the carbon tax is the prices would be higher. The demand would see a higher price and conserve, which is good. And the inframarginal technologies would work their way through the system with entrepreneurial capital.
And if, si je peux me permettre, nous, ce qu'on dit, c'est que au Canada, l'enjeu réellement, c'est de faire se rencontrer le système de la taxe, comme en Colombie-Britannique, avec le système de plafond de droits et d'échange du Québec. Et donc, notre document, au lieu de dire on doit faire l'un ou l'autre, parle plutôt de comment ces deux systèmes-là peuvent s'articuler, parce qu'on pense, encore une fois, qu'il faut vraiment qu'on ait quelque chose de national qui soit le même. Et il y a des signaux très encourageants. On comprend que l'Ontario, d'ici très peu, va embarquer avec le Québec, probablement, dans un système de droits de plafond et d'échange. Et donc, on va avoir quand même trois des plus grandes provinces économiques qui vont avoir une réglementation de prix de carbone.
So for Amita, in Europe, with the cap and trade system, it hasn't really worked out particularly well. Is there any move to reform that system so that it actually does have some effect?
Well, I think it works rather well. It's just that there are too many of the permits, so the prices are not high enough. But sort of the mechanics of it is working well, and it's still running. So I agree. I think it's the best solution. It's the simplest way of pricing this kind of externality. You're pricing the CO2. That's the problem. So I think so. And you know, you also have a lot of options when it comes to taxing nationally. We were discussing previously today. You can have taxes on fuels like petrol, gasoline, things like that, and that would have exactly the same effect. Maybe not in electricity, but in transport.
Thank you,
Monsieur.
Oui, bonjour. Mon nom est Yvon Brousseau. D'abord, ma question s'adresse à Madame Potvin. D'abord, félicitations pour le travail que vous avez fait et puis la sensibilisation autour de ce grand sujet qu'est les changements climatiques. En passant au Québec, on a un outil qui s'appelle la coop carbone également qui va aider plusieurs petites entreprises parce que souvent, ces changements climatiques, les plus petits joueurs sont parfois laissés de côté. Bon, ma question est la suivante envers vous. Pour qu'on ait une perspective vers 2050, j'ai vu qu'on puisse arriver à la situation. Est-ce que vous avez regardé la perspective de changer le modèle économique? Actuellement, tout le modèle économique est basé sur la création d'une seule forme de richesse, qui est l'accumulation de capital. Et on reconnaît la richesse que par cette voie-là. Donc, dans votre rapport, est-ce que vous avez envisagé d'autres perspectives de reconnaissance de la richesse au niveau de la planète? Qui soit autre chose que uniquement l'accumulation de capital. Et loin de moi ici, l'idée d'éliminer le capitalisme, c'est pas le but de l'exercice, mais est-ce que cette voie-là de changer de modèle économique fait partie également de vos stratégies? Je semblais pas l'avoir vu, mais j'ai pas lu votre document encore. Merci.
Non, ça fait pas partie de nos stratégies. Alors, comme je disais, c'est un document qui a été bâti dans un consensus. Donc, les 60 chercheurs de l'initiative, là, vont se lever puis défendre tous les mots et toutes les virgules, d'ailleurs, du document. Et donc, on a fait une enquête Delphi qui a mis 268 propositions sur la table. Et là, chacune des personnes de l'initiative a lu les 268 et a opiné sur les 268 et on a réduit. Alors, certaines des propositions un petit peu plus innovatrices n'ont pas été retenues. Un consensus, c'est jamais quelque chose qui est très imaginatif probablement, mais c'est pas ça qu'on voulait. Nous, on voulait un consensus d'une grande représentation d'acteurs au Canada, ou enfin de chercheurs.
Est-ce que je dois comprendre votre réponse, que vous cherchez surtout à ce que l'action se mette en branle?
Oui, absolument. Nous, quand on se fait dire, mais c'est parfait, on peut faire ça. Moi, j'ai donné des interviews en anglais en Alberta, puis on m'a dit, but Dr. Potvin, it's very reasonable what you are proposing. Fait que là, j'ai dit, yes, we think it is. They say, yeah, we don't see why we can't do that. En Alberta, en anglais. Fait que donc, oui, c'est ça qu'on voulait. On veut commencer. Parce qu'une fois qu'on va avoir commencé, les gens vont arrêter d'avoir peur. Parce qu'actuellement, on est paralysé par la peur. Et par toutes sortes de bonhommes 7 heures qu'on nous sort. Et nous, on voulait dire, non, on commence. Comprenez-vous, on commence. On va avancer. Puis, là, on va voir que c'est moins inquiétant que ça a l'air.
Merci.
Je ne sais pas. I don't know if any of the other two speakers want to comment on that. No. About a change of model in terms of the economics, or not having the yardstick being the accumulation of capital?
I mean, the economic model that I think of, first of all, maximizes the benefits to society as a whole, and doesn't choose the winners and the losers. I'm not sure what is meant by the accumulation of capital. I mean, people, there are, you know, in free market societies or close to free market societies, the people whose ideas prove in the market accumulate capital, I guess you would call it, or accumulate wealth. It's something that then there is a political decision as to how much of that wealth they can keep through the tax system. But certainly trying to head off the capital accumulation before it's done its job is, in my opinion, not a good idea.
But if I can add a point on this, Esther, in U.S. actually, you have a new corporation legislation named Benefit Corporation, where these people have a mandate, not a legal mandate, to find the balance between the triple bottom line, mean economics, social, and environmental. Now, the capitalism is based on only one bottom line, is the profit. Any company now want to find a mix of the best of these three and to challenge this climate change difficulty there, it's not possible. The only way legally you are in now, it's to maximize the profit. And as long as, it doesn't mean that you don't have to do profit with the triple bottom line, but you have to take account also when you create health, you create also for social and environmental perspective. In that way, the what we call richesse, it's not only wealth, it's not only the capital accumulation, but it's also to take in consideration how life is in here in the, on the planet. That is the point. It's already in March in U.S. with that new perspective, and it's not available here in Canada for now. That is why I was looking for, if in the report of Madame Padvin, if we are looking for a new business model, a new economic model also.
On avait une question au micro ici.
Thank you very much. I'm Franco Cascella. I'm a PhD candidate at Sherbrooke University. And firstly, I would like to thank all of you for those presentations. They were very interesting. My question is for the first speaker. I would like to better understand the market that you showed us. As I may think, the fact that you have a unique market in the Nordic region of Europe allows the customers to have a unique price for electricity. And I know, correct me if I'm wrong, that the wish of the European Union is to have this kind of market for the whole European region. So my question is this, how is it possible to provide a unique market and consequently a unique price of electricity in Europe, a region in which each nation produce energy in very different ways. France produce energy with nuclear. Italy use a lot of natural gas. The Nordic region use a lot of hydroelectricity. All those energy resources provide a different energy cost. So how is it possible to create a unique market and provide to the customers a unique price of energy and, of course, of electricity? Thank you.
Mette, please.
I think that this market coupling that we have seen developing from the Norwegian case, including rest of the Nordic case that, eventually, and then coupling to the rest of Europe is what's taken place. And it's a single market in the sense that you have a coordinated price calculation for the whole region. It's not necessarily a single price. as long as you have transfer capacities that are limited, you will have different prices in different regions. But it doesn't mean that they are unconnected. It can be a single market that will influence each other, not necessarily being exactly the same price. And it's kind of the same thing you have in other markets. You have different production technologies with different marginal costs, different cost structures. You have different weights on fixed versus variable costs, and et cetera. And, you get the cost recovery, hopefully. Maybe not totally. You need capacity markets, maybe. But that's sort of, you have on the margin, you have sort of the marginal producer is setting the cost, or the consumption side if you're in a constrained situation. And I think that's kind of signaling the right value of the products. And I think that's the most important part of the deregulation, that you get the valuation. You have the value of the commodities. And that's the basis for your decisions. And I also think that is also facilitating doing all these kinds of extra pricing for the externalities and things like that. The markets give you a good framework to do that.
Thank you. Dick, do you want to add anything on that? Or?
We have conducted, not intentionally, but we've conducted experiments when entities joined ISOs in the United States, the independent system operators. In, I believe it was 2005, the American Electric Power System joined the PJM market system, and literally at the instant of connection to the market, the trade across what was the old interface, which creates problems in the trade, when it was coordinated, the savings were close to $250 million a year. And that same thing happened when Virginia joined the PJM market. The trade across the system, I mean, to try to trade using point-to-point transmission rights is very inefficient, and you need a central coordinating mechanism to get all the efficiencies out of the system.
Thank you again. Sir?
Bonjour, Paul Mottier, étudiant à la maîtrise de la Polytechnique. J'ai deux questions pour Madame Poitvin. La première, sur les orientations stratégiques dont vous avez parlé, l'une des premières que vous mentionnez, c'est d'établir un prix sur le carbone égal dans toutes les provinces, si j'ai bien compris. Ma première question est, n'est-ce pas le risque de se retrouver au sein du Canada avec une situation un peu la même que celle du protocole de Kyoto, au sens où, si j'ai bien compris, toutes les provinces ne sont pas, n'ont pas le même statut de bon élève en termes d'émissions de gaz à effet de serre. N'est-ce pas le risque de voir le Québec, par exemple, dire « je ne vois pas pourquoi je paierais autant que l'Alberta ou que l'Ontario, puisque j'émets beaucoup moins de gaz à effet de serre sur le carbone. Est-ce que c'est pas un risque d'avoir des différences de point de vue ? Et ma deuxième question est, et vous y avez un tout petit peu répondu, mais j'aimerais un approfondissement là-dessus, est-ce que ces orientations stratégiques vont être suivies par les politiques en place, puisque c'est bien le problème du coup, enfin, c'est ce qui s'est passé en 2011 avec le fait que le Canada se retire du protocole de Kyoto. Quels arguments, quels outils avez-vous pour forcer, ou non pas forcer, mais inciter fortement les politiques à prendre en compte ces orientations stratégiques pour enfin, pardon, penser enfin, mais se mettre au travail et prendre sérieusement le problème du changement climatique.
Alors, merci. La première réponse sur le prix du carbone, il faut comprendre que ça va être les industries, les émetteurs, les institutions qui vont devoir compenser dans un système de plafonnement comme au Québec. C'est chaque institution qui va devoir payer le prix du carbone qui ne réussit pas à réduire. C'est pas la province, c'est l'institution ou c'est l'industrie. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que si le prix est le même à travers le Canada,
Alors là, les institutions québécoises ne seront pas défavorisées par rapport aux institutions d'ailleurs. Et même chose pour l'Ontario. Donc, c'est très important parce que c'est chaque industrie, chaque institution a assumé le même poids pour se nettoyer. Tandis que s'il y a une province où le prix est plus bas, ben là, on n'a plus ça. Alors là, il pourrait y avoir effectivement des déplacements entre les provinces. Alors, c'est pour ça qu'on a établi pour nous un principe important. Maintenant, on n'a aucun pouvoir comme dans aucun pouvoir. Là. Nous, on est des chercheurs universitaires. Cependant, une des choses qui nous a mobilisés, ou deux choses qui nous ont mobilisés au Québec, on fait face à des grandes coupures dans le secteur universitaire. C'était aussi une démonstration que les universitaires, ça peut servir à quelque chose. Hein? On n'est pas juste une décoration. Et je sais que les collègues, ce qui les motivait, c'est de dire, mais tu sais, il y en a de nous, là, ça fait 30 ans qu'on est payé, qu'on pense toutes nos journées, on réfléchit à des solutions. Là, si on n'est pas capable de les articuler, en quelque part, effectivement, on est des décorations qui ne servent à rien. Donc, on voulait faire la démonstration qu'on était un bon investissement, et ça devenait d'autant plus important étant donné ce qui se passe avec les scientifiques du niveau fédéral. Moi, je suis en écologie, en Environnement Canada, les scientifiques ne peuvent vraiment pas parler. On les a rencontrés, on sait de quoi on parle. Là, c'est pas un ragot. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était de mettre ce savoir collectif-là à la disposition du public. Si vous lisez ça avec votre lunette d'ingénieur, vous allez dire, mon Dieu, ils sont vraiment première année primaire. Mais en fait, nous, on veut pas s'adresser nécessairement aux ingénieurs, mais à la population. Et ce qui nous a fait très plaisir quand M. Hertel nous a parlé hier, c'est qu'il a dit, vous nous donnez la légitimité, vous nous donnez les outils pour aller défendre ce qu'on veut défendre. Parce qu'évidemment, c'est écrit, on a travaillé beaucoup le niveau de langage pour un niveau de langage compréhensible, mais il y a des notes de bas de page avec des tonnes de références. Donc, si tu veux aller chercher la source, tu peux. Et on pense que c'est seulement ça le poids qu'on a. Ce qu'on est, on est des universitaires. On n'est pas partie prenante d'une industrie, on n'est pas politiquement partisan. Donc, on peut dire la connaissance, au meilleur de notre opinion, c'est ça. On en fait cadeau à la population, on en fait cadeau aux politiciens, puis après, c'est pas à nous à décider.
Merci. Monsieur Dubé, je vais le passer à quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Monsieur?
Allô?
Allô?
Oui.
Allô?
Ah, OK. I would like to know your opinion on carbon capture and storage, and to what extent you think this technology will be necessary to achieve emission targets.
Did you ask me?
Any of the speakers?
It's a very expensive technology, and it's a technology that it's hard to see where the cost improvements are going to be created because it's just an accumulation of trying to capture the carbon. Then you transport it in a pipeline and then you inject it into the ground. And that's a reasonably expensive process, and they're very well-developed technologies. In the United States, we've had several starter projects that have not done very well, so it doesn't look like one of the cost-effective technologies at this point in time.
And I guess you can add it's energy intensive also.
Yes, but unless you're sitting on top of a tertiary recovery oil reservoir, which you may not like anyhow.
I think that's the same experience we have. There's been a couple of test cases. It was supposed to be in full operation, but it's just difficult technologically if you're, depending on where you're located, to do it together with a refinery, for instance. You could use it for improving the extraction of oil, but maybe that's not such a good solution. I think there are a lot of other kinds of technologies where you are having these negative emissions using more biofuels or things like that. So it could maybe be more promising. But I think I've also heard recently that if we are supposed to, or if we are to be able to reach the goals, we need some of these negative CO2 technologies somehow.
Merci.
Wait,
you have a follow-up? A quick one, please.
It was more with regard to like China and developing countries who say that it's like their turn now to get developed, and for this they use a lot of carbon plants, which is well known. And so it's a big part of the emissions, I think, all the new coal-fired plants. And I'm sorry, I thought like how...
So may I reformulate? I guess your question is you want to know India, China, the developing world is now saying you've had your turn, you've burned, you've drilled, you've done whatever you needed to do, it's our turn now, please let us do it. What's your opinion on that? Is that what you're asking to the speakers?
The technology exists and it is possible to do it, and it is expensive, but it's necessary to attain the targets. But the carbon capture and storage was like getting up in the last years, but then like now really the last years it's like abandoned because it's too expensive, as you said.
Right. Well, I guess I don't know if you want to add anything, but maybe again the problem, the well, it's in the pudding, really. The truth is in the pudding, because you have to have a carbon price to get it right. Is it? I don't know if you're necessarily.
Well, that's the easy answer, I guess. Gotta get us the carbon price.
Oh, also happens to be the correct answer.
Thank you.
Alors,
petite question.
Oui, ça va être très court là. J'aimerais, Madame Potvin, si vous pouviez m'éclairer un petit peu sur la comptabilisation des émissions. J'ai toujours eu l'impression que les émissions étaient imputées aux pays producteurs. Par exemple, le Canada, si on produit de l'aluminium, les émissions, ils sont imputées au Canada. Mais il me semble que ce serait plus correct de les imputer aux consommateurs. C'est bien clair que la Suisse a produit pas d'aluminium, là. Donc, il me semble que ce serait plus correct que ces émissions-là soient imputées aux gens qui consomment le pétrole, les gens qui consomment l'aluminium, les gens qui consomment le fer.
Pour le pétrole, c'est le cas, hein? Alors, nous, on est imputable des émissions de la production. On n'est pas imputable
Je comprends très bien, mais ces émissions-là, ils font partie du produit pétrole, comme les émissions du fer, pour la production du fer, ils sont dans le lingot de fer.
Moi, je dirais que ce qui est important, c'est qu'il y a une planète, puis il y a des émissions dans cette planète-là, et c'est ces émissions-là qu'il faut faire. Alors, pour moi, l'important, c'est qu'on ait des règles assez claires qui soient équitables entre les pays. Pour l'instant, elles le sont. On peut les débattre. Il pourrait en avoir d'autres. C'est juste celles-là qu'on a. Et l'important, c'est que les pays fassent face à ces émissions-là et que chacun, selon les émissions qui lui sont imputables, réagisse. Alors, je pense que ce qui est vraiment plus dangereux, c'est les secteurs d'émissions qui ne sont pas attribués, et ça, c'est la marine internationale et l'aviation internationale. Mmh. Ça tombe dans les cracks parce que personne est responsable. Tandis que le reste, c'est une question de comptabilité, puis on va gagner d'un côté, on va perdre de l'autre.
Mais la solution du prix du carbone,
Monsieur,
si on veut qu'elle s'applique, il faut la comptabiliser correctement.
Richard, you wanted to add something on that? Did you want to?
Yeah,
I thought you had.
I mean, if you again had a carbon price and you have to pay the carbon price when you're producing aluminum, it will also be reflected in the aluminum prices. So even if you use it in Switzerland, they have to pay the price. So that's sort of how it's going, idealistically, it's going to work.
That was exactly what I was going to say. Yes,
thank you. Monsieur?
Bonjour, je m'appelle Pascal Geneviève. Ma question, c'est pour Madame Biondel.
Au Québec, on parle beaucoup d'électrification des transports pour remplacer le pétrole par de l'électricité à basse teneur en carbone. Puis en Norvège, je crois que vous êtes le leader en termes de nombre de voitures électriques mises chaque année sur le marché. Je voudrais avoir un peu votre secret de fabrique. Qu'est-ce que vous aurez à suggérer au Québec pour essayer de vous rattraper, sachant qu'on a en comparaison assez peu de voitures électriques sur notre réseau et qu'on pense que c'est une voie d'avenir?
Mette?
Yeah, I just didn't listen to the last part of the question. Cars are expensive in Norway. So you pay the final price, more than half of it will be taxes. And what has been done on the electrical cars is that you don't pay taxes at all. So the Tesla is not much more expensive than a medium Volvo. And that's why, I mean, incentives work. They really work very well if it's strong enough. So you've seen a tremendous increase in the number of electrical cars. So, but still, it's only a small fraction. But this year, 1 in 5 cars sold is an electric car. So it works very well. You have a really, really a big tax rebate in order to make it happen. And I guess you could do that. I don't know how it is.
Si je peux me permettre, mais Richard peut préciser, je pense qu'aux États-Unis, en tout cas certainement en Angleterre, ils ont aussi des politiques qui pay as you save pour certaines des technologies comme ça, qui sont plus chères à l'achat, mais t'économises au long terme. Alors, on te prête de l'argent avec des taux d'intérêt très bas ou on te le prête sans intérêt pour que tu puisses acheter et puis tu rembourses après. Donc, il y a toutes sortes de modèles différents.
Monsieur, dernière question.
I can just add a little bit, because it's not only electrical cars. You have, like, the taxes for the cars is based on a lot of criteria, and CO2 emissions is one of them. And that also helps for other kind of cars that is low on fuels.
Well, that's basic European policy, because when you're buying a car, you're buying an A, a B, or C, and so on and so forth, and your license plate is based on also on how the liter, the size of the engine, and so on. Monsieur.
Merci. Merci pour vos présentations. Mon nom est Mark Prudin. Je vais peut-être poser ma question en anglais. It's really a question about, we have representatives from the United States, Canada, and Norway, which I don't believe is part of the European Union, but they're all federal structures, federal, if the European Union, we could throw it as a semi-federal government. I'm just wondering about how we can, your reflections on ensuring that there's flexibility in climate and energy policy for different countries, states, and provinces that are part of your representative federations.
Questions of governance.
Ouais, pour nous, c'était une partie centrale de notre document, c'était cette flexibilité-là. Si on veut que ça marche à l'intérieur du Canada, d'abord, nous, on reconnaît qu'il y a 4 niveaux de gouvernance avec lesquels il faut qu'on fasse face. Il y a les villes, il y a les provinces, il y a le fédéral et il y a les Premières Nations, qui ont aussi une juridiction territoriale importante. Et que la façon dont chacune des juridictions va gérer sa trajectoire de décarbonisation va être différente. Le Québec et l'Alberta ont des circonstances fort différentes. Des désirs de la population sont différents. L'énergie qu'on a est différente. Et donc, ce qu'il faut, c'est pour ça que nous, on s'est axé sur 10 orientations stratégiques assez universelles, en disant, on va les illustrer avec des exemples, mais la façon dont toutes ces actions-là vont être mises en œuvre va nécessairement dépendre de la circonstance des juridictions. Et on va plus loin. On dit que s'il faut que ça soit porteur et qu'il y ait une acceptabilité sociale, il faut que la façon dont les orientations sont mises en œuvre, ça corresponde au désir d'avenir des populations. Il faut que les gens disent dans quel genre de ville je veux vivre, dans quel genre de province je veux vivre. Et ça veut dire au niveau de la densité urbaine, des modes de transport en commun, de la proximité des commerces. Donc, d'utiliser cette transformation-là pour répondre aux désirs de la population. Et les désirs ne vont pas être les mêmes dans les différentes provinces, c'est certain.
Mette, Dick, you want to add something on governance and all?
Well, in the United States, we have a very diverse set of policies. We have everything from California trying to go super green to the southeastern states who want to continue to burn coal, and just about everything in between. States with lots of wind, like lots of wind, and states with lots of sun, like solar. They have renewable portfolio standards. Some have carbon taxes. We have just about, and we have the federal government intervening with clean power programs because the carbon tax is not politically possible at the federal level today. So we have a truly decentralized climate policy.
And Mette, the final word?
Well, Norway is not part of the EU, but we have all the legislation because we're part of the European Economic Area. So we are among the first to sort of implement the EU laws, actually, which is kind of funny. But I think that the carbon pricing was an attempt to have these general mechanisms in order to sort of promote different technologies, whichever is more efficient in different places. And I think also that the green certificates, which we have at least in the Norwegian Swedish market, is an effort to do the same thing. But in practice, I think you also see a lot of country-specific solutions, especially when the carbon price was coming so low. I don't have really a very good answer, but I think the general mechanisms, which are neutral in some sense, is also promoting to take advantage of the differences in resources you have around.
Thank you very much. And I guess you can say strategic orientations at the top, and then everybody gets to do their own thing at the bottom, which is again what Catherine and her team are proposing. So I would like to thank our speakers. Let's give them a round of applause. And also thank you for your questions.
Token of recognition for each of our speakers, and there should be a photographer coming down at this point. Aha, there she is. So we will start with Catherine Potvin.
Tout un accomplissement pour une écologiste, je vous
dis. Merci beaucoup.
Merci
Catherine. Richard O'Neill. Thank you very much, Richard. And last, but certainly not least, Mette Bjørndal. Thank you. A few more items before we close the session for tonight. We also have the draw of the prize of attendance coming up. Before I forget, somebody left a cell phone at the registration desk. So if you're missing your cell phone, please come see me as soon as the proceedings finish tonight. Otherwise, it's going to stay in my pocket. Merci à tous d'être venus. Nous espérons que le symposium vous a plu et qu'il vous a informé un peu plus sur certaines des questions énergétiques de l'heure. Je mentionne la situation énergétique dans les pays émergents, le besoin d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie, toutes les questions des marchés de l'électricité et comment on opère un système électrique. Donc, on a beaucoup parlé aujourd'hui, incluant dans les périodes de questions. Et vraiment, une thématique porteuse de l'actualité, toute la question du prix du carbone, dont on a beaucoup parlé aussi. ce n'est pas fini. La discussion continue, la conversation continue. Les instituts Trottier de Polytechnique et de McGill vont continuer à avoir d'autres événements. Il y aura un troisième symposium annuel Trottier l'année prochaine à McGill. Le prochain événement ici à Polytechnique est prévu pour le mois de mai. Alors, soyez à l'affût pour les nouvelles à ce sujet-là. Je veux donner un grand merci à Geza Yosh et à François Bouffard pour avoir animé les périodes de questions, ainsi qu'à toute l'équipe de l'Institut Trottier, du TICED, de McGill et de Polytechnique, toutes les gens techniques, volontaires, organisateurs qui ont permis l'événement. Thank you very much to you all. Nous allons maintenant prendre le tirage du prix de présence. En sortant, après cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas de retourner vos clickers. On veut les revoir pour pouvoir les réutiliser la prochaine fois. Alors, n'en prenez pas comme souvenir. Laissez-les nous, s'il vous plaît. Et vous êtes tous invités à passer à la grille Roland, comme je disais, pour le cocktail dînatoire. N'oubliez pas de prendre le temps de vous faire photographier dans notre photo booth avec votre choix énergétique préféré. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez le voir et vous comprendrez. Alors, finalement, on va passer au tirage du prix de présence et je vais inviter M. Trottier à faire le tirage. Un gros seau dans lequel piger. On va essayer de... Oh! Je ne sais pas s'ils sont choisis ou pas, mais on va les remettre. Voilà. Voilà. Philippe Allard. Ah. Je laisse le tour à quelqu'un d'autre. OK. On va. Désolé, M. Trottier, c'est pas fini.
Gilles Bellemare.
Gilles Bellemare. Alors, merci beaucoup à tous d'être venus. Thank you all for coming. Bonne soirée et à la prochaine.